Bonjour et heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, comme tous les vendredis, du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harvey, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur Grand Rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Super.
Vous avez le téléphone dans la main aujourd'hui?
Oui, je suis en train de faire une petite vidéo, et vous savez pour qui?
Non.
Pour Maxime et Annie.
On leur dira pourquoi tout à l'heure. Donc la paracha de demain, ce sera la paracha de Vaïra, et non pas de Vaïra, comme ce sera dans quelques semaines. Pour ce Shabbat, l'entrée du Shabbat à l'image des bougies, ce sera à 16h58, et demain la fin du Shabbat à 18h03. Les horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. À noter que ce sera Rosh Chodesh, jeudi 30 janvier, Rosh Chodesh, Shabbat.
C'est le Yortaï de mon grand-père.
Ah ben, d'accord.
On peut lui dédier aussi cette émission.
Voilà.
Avraham Ben Meir.
Voilà. Avraham, comme moi, Avraham, comme vous aussi.
Oui, je porte son nom.
Voilà. On revient à Rosh Chodesh, jeudi. Rosh Chodesh commencera mercredi soir, comme d'habitude. Il y a 15 jours pour le Rosh Chodesh Shabbat. Oui.
Oui.
Une raison.
Alors oui, bien sûr, il y a une raison pour laquelle on a Rosh Chodesh ou un jour ou deux jours. Alors très rapidement, à l'époque où nous avions encore Sanhedrin et que les mois étaient déclarés en fonction du témoignage, comme le prévoit donc la Chah, comme nous l'enseigne la Torah orale, des témoins donc qui venaient. Pour tout simplement témoigner qu'ils avaient vu la nouvelle lune, eh bien, on avait donc des mois qui étaient annoncés et qui étaient donc confirmés en fonction de ces témoignages. Par la suite, comme vous le savez, où ces témoignages ne pouvaient plus avoir cours, puisqu'on n'avait plus les structures pour recevoir ces témoignages, eh bien, il y a eu la mise en place d'un calendrier. Un calendrier donc, qui, par définition, était programmé
Au jour.
À l'avance, non, qui était donc voilà, calculé à l'avance. Et donc nous avons un système aujourd'hui dans notre calendrier où effectivement nous avons une alternance entre des mois de 30 jours et des mois de 29 jours. Et donc en ce qui concerne Rosh Chodesh Shvat, nous n'avons qu'un seul jour de Rosh Chodesh. Je rappelle que lorsque nous avons deux jours de Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh est en réalité le dernier jour du mois précédent.
Hein,
que ce soit bien clair pour les auditrices et les auditeurs qui ne sont pas familiers du calendrier juif, le premier jour de Rosh Chodesh dans un mois où nous avons deux jours est toujours le dernier jour du mois précédent. On ne peut pas avoir des mois lunaires qui font plus que 30 jours. Un mois lunaire a nécessairement 29 ou 30 jours. Lorsqu'il n'y a qu'un jour de Rosh Chodesh, eh bien, nous sommes forcément et nécessairement le premier jour du nouveau mois.
Très bonne explication, merci beaucoup. Ça nous, au moins, on va faire des choses. En mot sur l'actualité de la semaine, avec cette semaine, la venue de l'ancien grand rabbin d'Israël, le rabbin Israël Merlo, à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de l'aviation du camp d'Auschwitz. Alors, il y aura déjà une cérémonie au Parlement européen, mais il sera également présent à la Grande Synagogue.
Alors, c'est au Conseil de l'Europe, hein, c'est bien quand même de le corriger pour que les gens ne se trompent pas, ceux qui se sont déjà inscrits.
D'accord.
Ceux qui ne se sont pas inscrits, faites-le encore aujourd'hui, avant Shabbat, je crois que c'est le dernier jour pour s'inscrire.
Alors,
mais pour ceux qui se sont déjà inscrits, n'allez surtout pas au Parlement européen, ça se passe au Palais de l'Europe, Conseil de l'Europe,
d'accord,
qui est abrité dans le Palais de l'Europe, à l'avenue de l'Europe. C'est ce bâtiment que tout le monde connaît lorsqu'on quitte l'allée de la Roberto pour aller vers la Roberto. Sur votre gauche, vous avez le Conseil de l'Europe. C'est à cet endroit-là qu'il faut se pour assister à la cérémonie.
Alors, le grand rabbin Israël Merlo sera ici à Strasbourg, à la Grande Synagogue. Ce sera donc ce mardi à 19h30. Deux questions. Un mot sur Merlo. Et est-ce qu'il faut être hébraïsant pour écouter la conférence?
Alors, je vous rassure, je réponds tout de suite à votre deuxième question. Non, on n'a pas besoin d'être hébraïsant. Vous imaginez bien que nous traduirons le grand rabbin Merlo. Israël Merlo lors de ses interventions, l'intervention qu'il fera à la Grande Synagogue suite à l'Office d'Arvid, donc à 19h30, et également la prise de parole qu'il fera lors du repas. Là aussi, inscrivez-vous rapidement, ce repas que nous ferons dans la foulée de cette première cérémonie à la Grande Synagogue est vraiment une occasion unique d'honorer le grand rabbin d'Israël, de passer du temps avec lui. C'est une personnalité tout à fait extraordinaire. Je rappelle que le grand rabbin Israël Merlo est le descendant d'une très très grande lignée de Rabbanim, hein, il a interrompu sur plusieurs générations, et que malgré les épreuves qu'il a passées, et malgré son sauvetage miraculeux d'Auschwitz, alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant, eh bien, il a réussi par la suite vraiment à... avec le caractère qui était le sien.
Ce sera un témoignage de ce qui s'est passé pendant les camps, ou ce sera plus général ?
Alors, il y a deux aspects en réalité. Donc, il a réussi lui-même, comme vous le savez, donc, non seulement à poursuivre ses études rabbiniques, à devenir grand rabbin d'Israël, donc c'est extraordinaire, à ne pas casser la lignée, hein, malgré le fait qu'une partie de la famille ait été décimée, et malgré toutes les épreuves, il a réussi non seulement lui-même à devenir grand rabbin, mais à éduquer aussi ses enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et nous le savons, son fils, le grand rabbin David Lowe, qu'on avait eu le bonheur et la chance de recevoir à Strasbourg juste avant le Covid, hein, c'était pour le Sioum HaShas, eh bien lui aussi a continué cette lignée. Donc je disais deux aspects, bien sûr il y a l'aspect du témoignage personnel, par rapport à, je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont lu le livre, la biographie du grand rabbin David Lowe, le livre du grand rabbin d'Israël Meir Lowe, Loulek, qu'il était venu présenter d'ailleurs à Strasbourg il y a une quinzaine d'années. Mm-hmm. Il reviendra bien sûr, je pense, sur une partie du témoignage de sa vie et de son expérience, mais on a aussi voulu, et c'est le nom qu'on a donné au repas et au dîner donc de mardi soir, donner une dimension un petit peu positive et optimiste, ne pas être engoncé dans le passé, mais montrer comment est-ce qu'on est capable de sortir de cette obscurité et comment est-ce qu'on est capable de reconstruire le judaïsme. Hein. Il a été l'un des bâtisseurs du judaïsme d'après-guerre en Israël, et donc il nous parlera aussi de cet optimisme et de la manière dont il perçoit l'avenir du judaïsme à court et à moyen terme.
Comme chaque année, comme chaque semaine, on souhaite évidemment une refoua chemilade. Revois chez demain à tous nos malades, un Shabbat Shalom particulier à nos aînés, aux personnes isolées. Évidemment, on a une pensée forte pour tous les otages et les Hayalim qui restent dans les prisons de Gaza. Et on souhaite une bonne santé aux otages qui ont été libérés la semaine dernière. Il y en a 4 qui devraient être libérés demain aussi. Monsieur Grand Rabbin, aujourd'hui, on a un invité.
C'est un grand jour.
Un grand jour. On a un invité qui va fêter sa bar mitzvah. Alors, on va le laisser se présenter. Bonjour Ali.
Bonjour Jean, bonjour Monsieur le Grand Rabbin et bonjour tous les auditeurs.
Alors, tu t'appelles Eli Choukroun, oui. Un nom que je connais bien, hein, la même orthographe que moi, comprendre qui fera. Je crois qu'avant de faire l'émission, tu voulais quand même souhaiter un petit coucou particulier à ta famille.
Oui, je voulais saluer mes parents, Annie et Maxime, mes grandes sœurs Noémie et Eden, et mon grand frère Harry, sans oublier mon beau-frère Vincent.
Et on parle aussi de ta grand-mère ?
Grand-mère Marguerite Haas.
Voilà, qu'on salue, évidemment. On va d'abord...
Et on a une grande pensée pour tes grands-parents qui ne sont plus là. Et voilà, et particulièrement tes grands-parents paternels à qui on pense. Et voilà, je pense aussi tout particulièrement à ta grand-mère que tu as particulièrement bien connue. Ils doivent être très très fiers de toi, de là où ils sont.
Voilà. Comme d'habitude, on va commencer par le résumé de la paracha. Le second rabbin, paracha aussi très vive avec plein
très
de
dense.
Petites choses.
Voilà. On est au cœur de l'action. Rappelez-vous, la semaine dernière, Parashat Shemot, nous nous sommes arrêtés sur ce qui peut être perçu comme un échec, puisque Moshe Rabbeinu, qui a tant bien que mal accepté la mission qui lui a été confiée par Dieu, de sortir les enfants d'Israël de la difficulté dans laquelle ils se trouvaient et de l'esclavage égyptien, va essuyer un premier échec. Hein. Sa rencontre avec Paro ne donne pas du tout les effets escomptés. Bien au contraire, Paro va se montrer encore plus sévère et plus dur avec les enfants d'Israël, ce qui plonge Moshe dans un grand désarroi. Et Moshe demande à Dieu, mais si finalement c'est pour aggraver la situation des enfants d'Israël que tu m'as envoyé, alors autant ne pas m'envoyer du tout. Et Moshe a l'air de demander des comptes à Dieu. Voilà, il ne comprend pas exactement quels sont les calculs de Dieu. Et donc c'est sur cette impression d'échec que nous nous sommes quittés. La paracha de Vaïra va nous donner l'occasion de prendre un tournant et de rentrer dans le vif du sujet, puisque Dieu va rassurer Moshe, il va rassurer Aaron, et il va leur demander de ne surtout pas rester sur cet échec, de retourner voir Paro, et nous allons le voir donc au cours de la paracha, de mettre en place un programme qui est très très bien orchestré en réalité, qui est entièrement là aussi calculé, prévu par Dieu, et qui, eh bien, progressivement, a pour objectif de faire plier le pharaon. Il s'agit bien sûr des différentes plaies d'Égypte, les fameuses Esser Makot, les fameuses 10 plaies d'Égypte, mais que nous ne verrons pas dans leur totalité. Donc en fait, notre paracha va être consacré à ces différentes plaies égyptiennes, les 7 premières, hein, du sang jusqu'à la grêle. On verra pourquoi est-ce qu'on n'a pas les 10 plaies dans la même paracha, mais vous avez donc déjà aussi peut-être une réponse à une question que vous pourriez poser. Non, la paracha de Vaïra ne nous mettra pas face à la fin de l'intrigue et de l'histoire. Il faudra encore attendre la semaine prochaine, voire la semaine d'après, hein, pour voir cette délivrance se concrétiser. Mais en tout cas, on va dire que le cœur de ce processus de délivrance se trouve véritablement dans cette parachate Vaïra, et ce sera très très intéressant de voir ces différentes plaies, de voir la réaction de Pharaon suite à ces différentes plaies, la réaction également de Moshe, et comment est-ce que petit à petit les choses se mettent en place, et nous pouvons avoir parfois de bonnes raisons de croire au cours de la paracha que, eh bien, cette délivrance va finir véritablement par arriver.
Alors on commence la première question, Eddy.
Dans le premier verset de la paracha, Dieu se prononce sur des noms différents. Quelle est la raison? En fait, combien Dieu a de noms?
Très bonne question. Effectivement, c'est le début de la paracha qui est un peu intriguant, et tu as raison de souligner, Eli, que dès le premier verset, dès le premier passouk, nous avons déjà deux noms différents de Dieu qui apparaissent, puisqu'on nous dit « Vayedaber Elohim El Moshe », c'est donc Elohim, c'est un des noms de Dieu qui s'adresse à Moshe, « Vayomer Elav Ani Hashem ». Et là, directement, on a une contradiction. Ouais. On nous dit que c'est Dieu qui parle à Moshe, et d'ailleurs, on n'utilise pas simplement deux noms différents, mais même deux verbes différents. « Vayedaber », donc Dieu parle à Moshe, et c'est Hashem, « Vayomer Elav Ani Hashem ». Et lorsqu'il ne lui parle plus, mais qu'il lui dit, donc on a un changement de verbe, eh bien, ce n'est plus le nom d'Elohim qui est utilisé, mais c'est celui d'Hashem, c'est-à-dire le tétragramme, le fameux « Yudke Vavke ». Et dans le verset suivant, Dieu va se présenter encore sous un troisième nom, ou en tout cas évoquer un troisième nom, qui est ce nom de Kel Shakai, ce nom sous lequel Dieu se serait présenté aux patriarches, sans leur avoir fait connaître justement ce nom, ce fameux nom du tétragramme. Alors combien de noms a de Dieu? Dieu a beaucoup de noms en réalité. On peut parler notamment de sept noms qui ont une particularité, c'est que ce sont des noms que nous ne pouvons pas, que nous avons une interdiction totale d'effacer, pour lesquels nous transgresserions un interdit de la Torah si jamais on était amené à les effacer. Ces noms, ce qu'on appelle Sheva Shemot Shenam Nimchakim, je peux les citer, c'est bien sûr le tétragramme, c'est le nom de Adnout, hein, que nous connaissons, le nom qui commence par Ado, bien sûr, et qui s'écrit aussi sous cette forme, hein, pas simplement qui se prononce, mais qui s'écrit aussi sous cette forme. Il y a le nom de Kel, hein, le Aleph et le Lamed. Il y a le nom d'Elohim que je viens de citer, de Eloka aussi, qu'on retrouve, qui est un dérivé de Elohim. Le nom de Tsevakot aussi, hein, qu'on a l'habitude de traduire par Dieu des armées, hein, une traduction un peu énigmatique. Et le nom de Shakai, justement, ces trois lettres qui sont évoquées dans le deuxième verset.
Chaque nom a une...
Alors, bien sûr, qu'est-ce que signifie des noms différents pour Dieu? C'est pas que Dieu a plusieurs noms comme nous, on pourrait avoir plusieurs noms sur notre état civil, ou alors des surnoms, parce que bien sûr, là je viens de parler de sept noms, mais en réalité il y a beaucoup plus que sept noms. Ces sept noms, ce sont les noms principaux, mais il y a d'autres manières aussi de désigner ou d'appeler, de faire référence à Kadosh Baruch Hu. Non, pas autant. On peut parler encore d'une, je pense, peut-être une dizaine encore de kinouim, c'est-à-dire de manières de qualifier Akadosh Baruch Hu, mais donc bien comprendre ici que lorsqu'on parle d'un nom de Dieu, c'est tout simplement une manière pour Dieu de se présenter au monde, d'apparaître à l'humanité et de mettre l'accent sur une qualité et une dimension tout à fait particulière. C'est cela que l'on cherche à mettre en avant lorsqu'on parle d'un nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne s'agit bien sûr absolument pas de nous dire ici que Dieu aurait plusieurs manières de se faire appeler, qu'il aurait plusieurs identités, pas du tout. Voilà, c'est simplement qu'un Dieu qui est omnipotent, qui est tout à la fois, eh bien, peut apparaître à l'humanité en mettant en avant une dimension plus particulière qu'une autre.
Et il y a une deuxième question à vous poser.
Pourquoi Dieu doit encore une fois confirmer son alliance, cette fois devant Moshe?
Alors, effectivement, on va nous reparler d'alliance dès le début du texte. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a ce qu'on pourrait appeler peut-être un déficit de confiance, la première rencontre s'est soldée par un échec. Elle s'est soldée par un échec qui plonge, on l'a dit, Moshe, dans un grand désarroi.
C'est la question suivante. Pourquoi Moshe a eu des doutes à accepter la mission, c'est la question suivante.
Alors, je ne vais pas empiéter sur la question suivante, mais c'est intrinsèquement lié, en réalité. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu va insister à nouveau sur l'alliance, Akadosh Baruch Hu est bien en train de faire comprendre à Moshe qu'il y a une alliance qui a été conclue, qu'il y a une promesse qui a été faite, et que cette promesse ne peut être que tenu finalement par Akadosh Baruch Hu, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle il se présente sous un nom qui évoque un dieu qui a été, qui est, qui sera, et c'est un dieu donc qui s'inscrit dans une continuité, et donc forcément qui ne peut pas faire abstraction de ce qui a été fait. Il y a une continuité entre le passé, entre le présent
et
le futur, et nous sommes dans la continuité de cette promesse. Et ça, Moshe Rabbeinu a sans doute besoin de l'entendre, et c'est au moment où Akadosh Baruch Hu se présente justement sous cette nouvelle dimension, dans laquelle il ne s'est pas encore présenté à Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, Moshe va intégrer cette idée, cette notion.
Ok. Dans le début de la parasha, Dieu, il insiste beaucoup sur un thème qu'on va appeler un gros thème de délivrance. Et il dit ceci, je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous prendrai pour moi. Et en fait, il aurait pu dire simplement, un vocable, je vous délivre, daïenou pour nous, on aurait été contents. Pourquoi autant de verbes, de termes,
alors,
de synonymes?
Dieu est tout simplement en train de détailler la manière avec laquelle il va procéder pour mettre en place cette délivrance. Or, cette délivrance, eh bien, elle ne peut pas se faire en une seule fois. Alors, bien sûr, on pourrait épiloguer sur les raisons qui ont poussé Akadosh Baruch Hu d'instaurer des étapes et des seuils, des paliers pour la délivrance, mais je pense qu'on peut l'expliquer en réalité de manière très très simple. Lorsqu'une personne a été privée d'un certain nombre de choses pendant un certain temps, il est très très difficile de, lorsque cette personne va renouer avec... Alors j'ai envie de donner un exemple qui est peut-être inspiré de l'actualité. On a tous suivi avec effroi, avec horreur, ce qui s'est passé avec cette petite Amandine, puisqu'on vit en ce moment le procès de la petite Amandine, donc qui est mort dans des conditions absolument atroces, et a priori, d'après les conclusions du médecin légiste, eh bien, la mort aurait pu être liée au fait qu'il y a eu à un moment donné une absorption de nutriments trop rapide par rapport à ce cauchemar qu'avait vécu cette petite qui avait été privée de nourriture pendant longtemps. Et donc le corps ne supporte pas une absorption trop importante et trop riche de nutriments lorsqu'il a été privé d'un certain nombre de choses. Eh bien, ce schéma-là s'applique exactement de la même manière au niveau spirituel. Il y avait deux problèmes, et au niveau psychologique, il y avait bien sûr deux souffrances dans laquelle se trouvait le clan Israël. Il y avait une souffrance physique et une souffrance psychologique. Eh bien, lorsqu'on va sortir une personne de cette souffrance, il faut y aller par étapes. Si vous procédez de manière trop rapide, malheureusement, vous allez créer sans doute une saturation au niveau à la fois du corps et au niveau de l'esprit, et vous allez tuer la personne. Donc pour faire en sorte que les Bnei Israël puissent sortir dans de bonnes conditions, il fallait que ça se fasse en plusieurs étapes. Et il y a eu plusieurs étapes. Voilà, ça n'a pas la délivrance n'a pas été une délivrance violente, elle a été une délivrance progressive, et c'est cette délivrance progressive qui a permis au Bnei Israël de sortir dans de bonnes conditions, de manière saine, et de pouvoir aborder l'étape suivante, qui était celle du don de la Torah.
Pourquoi Moshe hésite tellement à accepter la mission de Dieu? D'ailleurs, Dieu lui répète qu'il sera à ses côtés. Quels sont les doutes de Moshe?
Alors, très bonne question, et nous voyons dans les doutes de Moshe. Oui,
permettez-moi juste de faire vraiment un petit truc, parce qu'on en parle beaucoup, sur le fait d'être un leader aussi. Là, on demande à Moshe d'être un leader.
Un leader. Tout à fait. On demande à Moshe de porter le leadership du peuple, et Moshe refuse. C'est quand même quelque chose de rare, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, parce que par définition, normalement, le leadership, eh bien, c'est justement savoir prendre ses responsabilités. On ne pousse pas quelqu'un au leadership. On peut éventuellement sensibiliser une communauté, une jeunesse à l'importance de savoir prendre le leadership, mais il doit émaner après de la personne.
C'est
Or là, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, malgré le fait qu'elle soit poussée de l'extérieur et pas par n'importe qui pour prendre le leadership, refuse de prendre le leadership. Donc non seulement il y a un refus, a priori, déjà de la part de Moshe, de lui-même, bien se considérer comme étant la personne adéquate pour pouvoir intervenir dans la mission qui est la sienne. Mais même poussé par Dieu, Moshe continue à s'entêter à refuser. Ce qui est intéressant, c'est que Moshe a fini tant bien que mal dans la paracha de la semaine dernière par accepter. Et là, Moshe va revenir avec les mêmes arguments. Et c'est un thème que j'ai développé hier, c'est assez intéressant. Comment est-ce que Moshe peut refuser pour la deuxième fois avec les mêmes arguments en disant « je ne suis pas un orateur, j'ai du mal à m'exprimer », alors que c'est un argument qu'il a déjà utilisé la première fois, auquel Dieu lui a déjà objecté que ça n'avait absolument aucune importance, car c'est lui qui met la parole dans la bouche de l'homme. Comment est-ce que Moshe peut revenir à la charge exactement avec le même argument? Et là, il y a une très belle réponse que j'ai rapportée au nom du Khatam Sofer, qui est que dans cette argument de Moshe, qui revient à la charge encore une fois avec cette notion de cette difficulté à s'exprimer qui est la sienne, Moshe est en train de dire, certes, on continue peut-être à me considérer comme étant un leader, mais moi, au fond de moi-même, eh bien, je ne veux pas me laisser griser par ce pouvoir, je ne veux pas me laisser prendre au jeu qui... d'une certaine manière, pourrait se retourner contre moi, parce que lorsque tout le monde vous dit et insiste sur le fait que vous êtes le meilleur, que vous êtes le plus à même d'accomplir la mission, eh bien, vous finissez non seulement par y croire, mais peut-être par vous sentir un petit peu supérieur au reste du peuple. Moshe dit, on peut me dire que je suis le meilleur, on peut me dire que je suis le plus beau, on peut me dire que je suis le plus à même d'accomplir cette mission. Moi, au fond de moi-même, tout en acceptant cette mission, je continue à me considérer comme quelqu'un d'inadéquat, tout simplement parce que c'est de cette manière, c'est porté par cette humilité, par ce sentiment profond de modestie, que je parviendrai à réussir ma mission.
Je ne voulais pas rentrer trop dans le sujet, mais j'ai quand même une question à poser. Ça donne aussi, une règle qu'on doit respecter quand on est un leader ou quand on gère quelque chose.
Ah, tout à fait. Moshe nous donne une très très grande leçon, qui est celle de ne surtout pas se laisser prendre au piège, qui est un piège naturel, hein, qui est celui justement de la responsabilité, de la réussite que l'on peut avoir parfois dans les missions qui sont les nôtres, les missions collectives, dans les missions communautaires, et savoir toujours se remettre en question, toujours prendre du recul et toujours se dire que si au fond on a été choisi, c'est pas forcément parce qu'on est le meilleur et qu'on est le plus beau, mais c'est parce que, eh bien, tout simplement, il fallait être là au bon moment, il fallait que quelqu'un puisse faire le travail. On fait le travail, ça ne fait pas de nous un super-homme, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui peut s'arroger le droit de regarder ses semblables un petit peu de haut. Bien au contraire, Moshe ne l'a jamais fait. Moshe continue toujours, à l'inverse, à regarder les autres d'en bas et à les considérer comme ses semblables.
On va passer aux premières plaies avec Ellie.
La première plaie, c'est celle du sang. Pourquoi le sang en premier? C'est quoi la symbolique?
Alors, bonne question. La symbolique du sang, le sang, c'est la vie. Alors, il y a beaucoup de symbolique, mais le sang, par définition, c'est la vie. On a du sang qui coule dans nos veines. Les animaux aussi ont du sang qui coule dans leurs veines. Voilà, les êtres vivants vivent grâce à cette circulation sanguine. Mais en même temps, voilà, ce qui différencie, l'animal aussi a du sang. Et tu dois le savoir peut-être, Ellie, lorsque nous consommons de la viande, notamment de la viande cachère, nous n'avons pas le droit de consommer ce sang. Parce que ce sang qui exprime la vie, il exprime d'une certaine manière, c'est ce qui va nous différencier d'ailleurs nous des animaux, nous avons du sang qui circule dans nos veines comme les animaux, mais ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous ne sommes pas simplement des êtres faits de chair et de sang, mais nous avons également un esprit qui nous anime, nous avons une capacité à nous exprimer, une capacité à parler, et c'est ça ce qui va nous différencier justement du monde animal. Donc, lorsqu'on va vider l'animal de son sang avant de le consommer, c'est pour nous dire qu'il ne faut surtout pas ingérer toute la dimension bestiale qui se trouve à l'intérieur de l'animal. Donc, le sang, c'est peut-être ramener l'Égypte à la dimension un petit peu animale, bestiale qui était la sienne. Cette incapacité à réfléchir, à voir le monde différemment, et cette capacité peut-être à rajouter le Aleph. Ce qui fait de nous Adam, comme l'a été le premier homme, c'est d'accoler au mot d'âme un Aleph. Le Aleph, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la place de Dieu. Lorsque vous enlevez le Aleph, il ne reste plus que du dame, il ne reste plus que du sang. C'est peut-être
la raison.
Une des raisons, en tout cas, pour lesquelles l'Égypte est mise face à cette première leçon, à cette première réalité.
Alors, on voulait parler du bâton, mais on n'aura pas le temps. Il y a la deuxième clé qui est les grenouilles. Et il y a une autre question à me poser.
pourquoi les 7 premières plaies sont dans cette paracha et les 3 autres dans la paracha, dans la prochaine paracha? Ça aurait été plus simple de consacrer une paracha avec tous les plaisirs, avec pourquoi
toutes les plaies.
Avec toutes les plaies.
Pourquoi ce découpage?
Excellente question. Tu ne poses que de bonnes questions aujourd'hui. Et cette question, je me la pose chaque année en relisant les sidrotes, les parachutes. On se demande pourquoi ce découpage. Effectivement, ce n'est pas logique. Normalement, lorsque les plaies se mettent en place, on s'attendrait à ce que les 10 plaies soient dans la même paracha, ou alors éventuellement à ce qu'on les découpe en deux. Si on veut garder un peu de suspense, on met 5 plaies dans une paracha, 5 dans l'autre. Pourquoi 7 et 3? D'autant plus que dans le découpage, normalement, en 3 parties qu'on fait des plaies, hein, et on cite tous Rabbi Yehuda au milieu du Seder, Jean, hein, après avoir fait Dame Tsfardéa, ouais. Vous faites aussi Dame Tsfardéa le soir du Seder, Jean.
Oui.
Vous le faites avec le petit doigt trempé dans le verre ou en versant
ça dépend,
un petit peu le verre?
Ça
dépend de votre humeur.
Non, ça dépend de la façon qui fait la...
Ah, très bien. C'est quoi la tradition algérienne?
C'est
prend le verre et on verse un petit peu avec le verre. Très bien. En tout cas, juste après, rappelez-vous, Jean, il y a un moyen mnémotechnique, qui n'est pas si mnémotechnique que ça d'ailleurs, mais qui est rapporté par Rabbi Yehuda, qui va découper les 10 plaies en 3 grands groupes. Hein, Detsar, rappelez-vous, Hadash et Be'achav. Et donc, en réalité, on a 3, 3 et 4. Donc, si on avait voulu découper les plaies en fonction de ce classement en 3 catégories, on aurait dû s'arrêter soit après les 3 premières, soit après la 6e, puisqu'on a 3, 3 et 4, mais sûrement pas après la 7e. A priori, c'est pas logique de s'arrêter après Barad. Barad est la première plaie du dernier groupe. Donc, c'est pas très logique de s'arrêter après Barad. Sauf que Barad est un tournant dans l'histoire des plaies. Effectivement, c'est la première fois qu'il va y avoir une réaction qui ne vient pas simplement de Paro qui en a marre, qui va, pour se débarrasser de la plaie, faire mine d'accepter de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte pour finalement changer d'avis. Cette fois-ci, on va avoir un soulèvement populaire et une véritable demande qui émane du peuple et qui va demander à Paro d'en terminer complètement avec cette histoire qui est absolument insoutenable pour l'Égypte. Et donc on est à un tournant, c'est-à-dire que le véritable processus de libération s'accélère à partir de cette 8e plaie, et c'est la raison pour laquelle c'est après Barad, où là il y a quelque chose qui va se briser à l'intérieur de Paro, dans la capacité qui a été la sienne jusqu'à présent à lutter, à s'entêter, etc., quelque chose se brise, et c'est cette chose-là qui va se briser, qui va enclencher la dernière phase du processus, et c'est, à mon avis, l'une des raisons qui explique pourquoi c'est après cette plaie de Barad qu'on termine cette sidra, et que l'on va aborder la sidra prochaine avec la plaie de Arbé, dans une sidra qui est justement consacrée entièrement, là, pour le coup, à la délivrance, puisque, vous le savez, Jean, c'est à la fin de Bo que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Alors ce processus de délivrance ultime, eh bien, il commence avec cette 8e plaie.
Alors on va passer, parce que vraiment on a plein de questions, mais le temps nous impose à aller vite. La 3e plaie avec l'époux, c'est la première plaie où les Égyptiens, les magiciens n'arrivent pas à...
Ils constatent leur impuissance, tout à fait.
La 4e plaie, c'est les bêtes sauvages, où les bêtes sauvages ont été des Hébreux a été guéri, enfin n'a pas eu de problème concernant les bêtes sauvages. Et la dernière question, je vais vous la poser, il nous reste une minute.
Ouh là là.
Moi je me suis posé la question en lisant un parasha. Quand on dit Moshe et Aaron, on rentre dans le palais de Pharaon comme si on rentrait dans une auberge espagnole. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de sécurité. C'est incroyable, ça.
Alors, vous l'avez remarqué, Jean, les choses se font par étapes. Hein, et rappelons que ces plaies, elles ont duré pendant un an. Ça ne dure pas 3 jours, ça ne dure pas une semaine. Enfin, chaque plaie durait un certain temps, elle durait une semaine. Il y avait un délai entre chaque plaie. Et donc, toute cette histoire des 12 plaies, elle dure un an. Et vous imaginez bien que durant tout ce temps, et après les premières interventions, déjà avant même de lancer les plaies de Moshe et d'Aaron, il va y avoir un lien qui va se créer, même si on l'imagine, hein, certaines tensions entre Moshe et Aaron. Mais forcément, les plaies commencent malgré tout par actionner quelque chose. Si la première plaie ou la deuxième n'avait pas eu d'effet du tout sur Paro, alors elle n'aurait aucune raison d'être. Donc bien évidemment que ce processus, qui a l'air un processus assez lent, eh bien c'est un processus qui va mettre déjà des jalons en place. Donc il va y avoir une certaine forme de respect. Moshe et Aaron vont gagner en crédibilité auprès de Paro.
D'accord.
Et c'est cette crédibilité, ce respect malgré tout, voilà, qui font que, et d'ailleurs Pharaon, même s'il continue à s'obstiner, il sait qu'il les déjà un petit peu dépendant finalement de Moshe et d'Aaron, et qu'il y a cette nécessité de ne surtout pas couper le dialogue jusqu'à ce qu'on en arrive, ça on le verra la semaine prochaine, à l'ultime plaie où là le dialogue a l'air de se rompre complètement entre Moshe et Paro.
Merci Eli d'être venu. Ça va, ça t'a plu, tu reviendras? On verra.
Eli, t'as pas l'air convaincu, hein, mais on t'invitera quand même à revenir avec nous. Hein.
Merci beaucoup, monsieur Grand. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On va passer Shabbat ensemble, je crois, une bonne partie.
Oui, oui.
Merci à Thomas. Shabbat Shalom à vous tous. C'est Mazal Tov pour la bar mitzvah de Eli.